gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Restons dans cette présence de Dieu. Le Seigneur est là. Et s'il est là, il veut parler à nos cœurs encore. Qui que nous soyons, le Seigneur a un mot pour chacun d'entre nous. Aucun d'entre nous n'est ignoré ici, aucun d'entre nous. Il connaît chacun d'entre nous par son nom et il veut se révéler à nous. Lorsque le Seigneur est révélé, il n'est pas remonté au ciel avant d'avoir été avec ses disciples encore combien de jours? 40 jours. Qu'a-t-il fait pendant ces 40 jours? Il a passé beaucoup de son temps à fortifier ses brebis qui étaient blessées, qui étaient fatiguées, qui étaient découragées, qui étaient opprimées. Le Seigneur ne voulait pas partir au ciel avant d'avoir encouragé chacune de ses brebis. Et c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Il n'a pas voulu repartir avant, comme un bon berger, donner un mot personnel à chacune de ses brebis. N'est-ce pas merveilleux? Et je suis sûr que Dieu a un mot pour chacun d'entre nous, cet après-midi, ce soir et les jours qui viennent. Dieu veut vous parler. Dieu veut vous faire du bien, car il est au milieu de nous pour nous faire du bien. Amen.
Amen.
Croyons-le. Et j'aimerais, pour ce premier message, vous parler précisément de trois blessures qui se trouvent dans le cœur de beaucoup de brebis, de beaucoup de disciples du Seigneur. Trois blessures profondes qui paralysent la vie spirituelle de l'enfant de Dieu. Et le Seigneur Jésus tout spécialement a pris du temps pour guérir ces blessures-là. Trois blessures, il y en avait d'autres, mais j'aimerais voir maintenant ces trois blessures que Jésus est venu guérir, est venu panser avec tant d'amour. Et pour cela, nous allons lire le premier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Soulignez bien, à cause de la crainte. Soulignez bien cela. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ou on pourrait traduire aussi, « Prenez le Saint-Esprit. » Ce que Dieu donne, nous devons le prendre. Il y a toujours un acte de notre part. Dieu nous donne sa vie. Dieu nous donne ses grâces et ses bénédictions. Mais nous devons aussi les prendre. Car Dieu ne force personne. Recevez le Saint-Esprit. Prenez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenue. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce passage-là, nous discernons les trois blessures qui se trouvaient dans le cœur des disciples. Et le Seigneur, comme un bon médecin, comme un bon psychologue, a su discerner ce besoin et est venu auprès d'eux pour panser ces blessures. Nous discernons ici trois blessures profondes. La première qui est mentionnée ici, c'est la crainte. Mais avant la crainte, j'aimerais vous donner une autre blessure qui est sous-entendue ici. Si vous lisez tous les chapitres avant, ce qui a conduit, ce qui a engendré la crainte, c'était une autre blessure. Cette blessure était celle-ci, c'était ce sentiment d'être rejeté. Ce sentiment d'être abandonné. Vous lisez les chapitres avant, c'est exactement cela, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, quand il a été crucifié, pour eux, c'était vraiment la fin de tout. Ils désespéraient complètement. Quand Jésus leur disait qu'il allait mourir et ensuite qu'il allait ressusciter des morts, l'apôtre dit lui-même, il ne savait pas encore ce que cela voulait dire, ressusciter des morts. Autrement dit, tout ce que Jésus avait dit à ses disciples concernant sa résurrection après sa mort, ils ne comprenaient pas. Si bien que lorsqu'il est mort, c'était pour eux la fin de tout. Ils se sentaient rejetés, abandonnés du Seigneur et rejetés des hommes aussi. Donc, il y avait une première blessure, le sentiment d'être rejeté, qui engendre une deuxième blessure, qui est ce sentiment de crainte. Le rejet, quand on se sent rejeté, abandonné, automatiquement, il y a un sentiment de crainte qui est là, n'est-ce pas? Et cette crainte engendre autre chose, une troisième blessure. Jésus dit, ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. La troisième blessure, c'était la blessure du ressentiment, de l'amertume. C'est pourquoi Jésus leur dit, une fois que vous recevez la vie, l'Esprit de Dieu, qui est complètement libre de toute amertume, de toute crainte, lorsque vous recevrez cela, alors vous pourrez pardonner aux autres. Alors vous pourrez apporter le message du pardon. Mais il y avait ces trois blessures qui étaient là dans le secret des cœurs. Et nous allons les prendre les uns après les autres, car les trois forment un tout. La première blessure est donc ce sentiment d'être rejeté. Il faut se mettre à la place des disciples. C'était pour eux les moments les plus difficiles. Si c'était une croix, la croix pour le Seigneur Jésus, c'était en même temps la croix pour les disciples. Et ce sentiment d'être rejeté s'est manifesté par le fait que lorsqu'ils sont montés dans cette chambre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes à clé par crainte des Juifs. Voyez-vous, ils craignaient les Juifs. Il n'y avait donc plus cet amour pour les Juifs. Pourquoi? Ils pensaient que peut-être que c'était eux qui avaient crucifié le maître. Ils ne comprenaient pas encore pourquoi et à cause de quoi Jésus a été crucifié. Ils étaient là et ils avaient des sentiments vraiment très, très pénibles à l'égard de ces Juifs. Ils s'en séparaient déjà. Ils se sentaient rejetés par eux parce que non seulement Jésus a souffert avant d'aller à la croix, mais les disciples aussi. Tous l'ont abandonné. Judas était là, vous savez ce qu'il a fait. Pierre aussi, les autres aussi l'ont abandonné. C'était donc un moment très difficile. Tout à coup, ils se sont sentis seuls. Tous leurs espoirs se sont évanouis. Ils se sont dit, mais on a suivi le maître pendant 3 années, et voilà que maintenant, il se passe des choses que nous ne comprenons pas. La situation était douloureuse. Ils avaient ce sentiment d'être rejetés. Et il fallait à tout prix que ce sentiment-là soit guéri dans le fond de leur cœur. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce sentiment d'être rejeté est encore dans une multitude de cœurs. des multitudes de gens. Les psychologues le disent, les psychiatres aussi, ceux qui sont constamment en rapport, et les pasteurs, ceux qui sont en contact avec les gens. Un des fléaux de notre génération, c'est ce sentiment d'être rejeté, d'être abandonné, d'être délaissé. Ça, c'est une blessure qui fait souffrir, n'est-ce pas vrai? Je lisais dans un livre, on dit qu'en Amérique, bientôt, la moitié des enfants qui existeront n'auront connu qu'un papa ou qu'une maman. Donc, tous ces jeunes, tous ces enfants se sentent rejetés, soit par leur père, soit par leur mère. Et bien souvent, ils se sentent rejetés par les deux. Ils ont été les témoins des scènes affreuses au tribunal. Ils ont vu le père, la mère se battre l'un contre l'autre. Et bien souvent à cause de l'enfant aussi, des fois. L'enfant aussi pense que c'est à cause de lui que les parents le rejettent ou qu'il y a le divorce. Il y a toutes sortes de sentiments qui sont là. Et c'est quelque chose de tragique. Mais dans le monde, il n'y a pas de solution à cela. Mais il n'y a pas seulement le sentiment d'être rejeté là où il y a des problèmes, mais même bien souvent dans des familles chrétiennes où apparemment il n'y a pas de problème, il y a aussi ce sentiment-là. Bien souvent, les parents, sans s'en rendre compte, ils font des différences entre leurs enfants. Par exemple, lorsque l'un est plus intelligent que l'autre, on le fait dire « Oh, ton frère est beaucoup plus intelligent que toi. Si tu étais comme ton frère, eh ben ça irait un peu mieux. » Ou alors un des enfants est plus agréable et plus beau que l'autre. Combien de parents font en sorte que celui qui est agréable à voir est plus honoré, plus considéré que l'autre, qui n'a pas un beau visage ou qui n'est pas bien vu. Ce sont de simples petites choses que je vous dis, mais cela produit des souffrances terribles. Et les multitudes d'enfants qui naissent et qu'on n'a pas voulu leur naissance, n'est-ce pas vrai? Alors cela, ce sont les jeunes qui rôdent dans les rues, abandonnés, délaissés, battus. Ce sentiment de rejet-là, le mari qui se sent rejeté de par sa femme, la femme passée par son mari, il faut une réponse à cela, n'est-ce pas vrai? Et j'aimerais donner en quelques mots comment résoudre ce problème, comment guérir cela, car si nous n'avons pas la guérison de ce sentiment de rejet, toute notre vie spirituelle sera une vie sans victoire, avec constamment des hauts et des bas. Il faut donc résoudre ce problème. Il faut guérir cette blessure. Et Jésus veut le faire. Amen. Ce qui prend peut-être des années chez le psychologue, et encore s'il y arrive, en 5 minutes, le Seigneur peut faire ce miracle. Amen. C'est ce qui est formidable avec le Seigneur. Alléluia. Je pensais tout à coup, je me suis dit, mais comment toi, comme ça, en une réunion, tu crois, tu penses que tu vas résoudre ce problème? Je pensais tout de suite à ça maintenant. Je me suis dit, oui, humainement, on ne peut rien faire. Mais Jésus, il a résolu le problème de Marie comment? Marie qui était dépressive, Marie qui se sentait rejetée, abandonnée. Un mot, Marie. Et Marie a répondu, Rabouni, mon maître. Et elle était délivrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Un mot de la part du ressuscité valent mieux que 10 000 mots du psychologue ou du psychiatre. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, mes amis, un mot de Jésus, et c'est pourquoi il est merveilleux le maître. Les paroles de Dieu sont des paroles qui ont de la vie, mes amis. Amen. Et si nous recevons ces paroles de grâce, de vie, vous pouvez trouver la solution à votre problème que vous n'avez jamais trouvé ailleurs auprès des hommes. En un instant, un miracle peut se faire. Croyez-le. Ne dites pas, c'est pas possible. Ne dites pas, oh mes frères, pasteur, ça fait des années que je suis comme ça. Comment pouvez-vous dire qu'en 5 minutes, ça peut se régler? Peu importe si ça fait des années. Alléluia. Le Seigneur, en un instant, peut tout changer. Il est le Dieu de l'impossible. Ne limitons pas notre Seigneur. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Crois-le si tu veux recevoir sa parole. Un miracle est possible. Où est le remède à cette blessure? Le remède se trouve encore et toujours à la croix du calvaire. Amen. Là, Jésus, lui aussi, a été rejeté. Si vous avez connu, si nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre ce sentiment d'être rejeté, Jésus, lui, l'a connu totalement, pleinement. Et là, à la croix, il a été totalement rejeté. On disait que c'était Jésus de Nazareth. Il a été rejeté par la société. Je lisais aussi que, paraît-il que du temps de Jésus, la ville de Nazareth était une ville très mal famée. Les intellectuels du pays, à ce moment-là, considéraient que tout ce qui venait de Nazareth ne valait rien du tout. C'est pourquoi lorsqu'on disait Jésus de Nazareth, c'était un terme de mépris. Comment peut-il devenir quelque chose de bon de Nazareth? Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon? Autrement dit, toute la soi-disant crème de la société à ce moment-là rejetait Jésus. Comment, d'où est-ce qu'il vient ton Jésus? Il vient de Nazareth. Nazareth, il vient rien de bon. Et il était rejeté par la société. Il n'était pas seulement rejeté par la société, il était aussi rejeté par les siens. Vous le savez comme moi. Même les siens ne l'ont pas compris. Il a été rejeté par ses frères, par ceux de sa famille. Cela aussi, c'est quelque chose de pénible, n'est-ce pas vrai? Peut-être que plusieurs d'entre nous, vous êtes rejetés par les vôtres, par vos bien-aimés. Mais Jésus a connu cela aussi. Il comprend. Oh, alléluia! Tu n'es pas seul, il comprend. Il sait. Et il te dit, mon enfant, je comprends. Je suis passé par là. Je sais ce que ça veut dire. Prends courage. Mais il y a eu un autre rejet dans la vie de Jésus. Et ce rejet, c'est, j'allais dire, le plus terrible. Il était rejeté par la société, par sa famille, mais il a été aussi rejeté par Dieu, son Père. Lorsqu'il était sur la croix, il s'est écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, lorsqu'il était sur cette croix, vous le savez vous-même, c'est lorsqu'il a porté tout le poids de notre péché, notre culpabilité, il l'a porté sur lui, et c'est à cause de cela qu'il a été rejeté par son Père. À cet instant précis, le poids du péché de tous les hommes se trouvait sur Jésus. Et Dieu, qui est saint, ne peut pas regarder le péché. C'est pourquoi pendant un instant, Dieu le Père ne pouvait plus fixer les regards sur son Fils, parce qu'il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Lui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché pour nous. Il a connu ce sentiment de rejet. Il a été rejeté à cause de notre péché. Le remède, je veux dire la racine du rejet de l'homme aujourd'hui, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Et l'homme en général se sent rejeté à cause du péché. C'est pourquoi il nous faut aller à la racine du mal. Et là, découvrir que Jésus qui était sans péché a porté notre péché sur la croix. Et en le portant, il a été rejeté. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Amen. Voilà le miracle qui s'est passé à la croix. C'est là qu'il y a la réponse à ce problème du rejet. Jésus l'a résolu. Il a été rejeté pour que moi, je ne sois plus jamais rejeté. Alléluia. Cependant, nous dit le prophète Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour
nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ses meurtrissures que nous sommes
guéris.
Alléluia! Voilà la guérison! Pas seulement le pardon de vos péchés, mais aussi la guérison de vos douleurs. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Voilà le sentiment de rejet là. Ces douleurs, ces souffrances, Jésus les a subies à notre place. Jésus les a portées à notre place. Il a porté ce châtiment sur lui. Et il te dit, mon enfant, tu as été rejeté, c'est vrai. Mais moi, j'ai été rejeté à ta place. Et parce que j'ai été rejeté à ta place, maintenant, dans mes meurtrissures, tu es guéri. Alléluia.
Alléluia.
À cause de mes meurtrissures. Et de mon amour pour toi, maintenant, tu es accepté. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 6. Il nous dit que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Une version dit, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Et ce mot accepté, dans le texte original, est très important. Vous savez, quand on dit, oh, je t'accepte, bon, je t'accepte au milieu de nous. Bien souvent, ce terme accepté est négatif. Je t'accepte un peu à contre-cœur. Je t'accepte parce que je ne peux pas faire autre chose. Je t'accepte, mais je continuerai de bouder. Je t'accepte, mais je te tolère à peine. Mais dites-moi, quand Dieu dit qu'il nous accepte en son bien-aimé, ce n'est pas du tout cela. Le verbe accepter ici veut dire être hautement favorisé. Être honoré, être hautement favorisé, c'est avoir de l'estime, de la valeur aux yeux de Dieu. Et aux yeux de Dieu, parce que Jésus a été rejeté, nous avons maintenant de la valeur à ses yeux. Amen. Et voilà le remède à ce sentiment d'être rejeté. Tu es rejeté, mais tu n'es pas rejeté de Dieu. Amen. Les autres te rejettent. Mais Dieu, lui, ne te rejettera jamais. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Il a porté tes douleurs et tes souffrances. Et maintenant, il te dit, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur moi. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, tu es accepté. Vous pouvez lui dire dans votre cœur, Seigneur Jésus, merci de ce que maintenant je suis accepté en Jésus-Christ. Amen. Comme tu as accepté ton Fils dans le ciel, maintenant tu m'acceptes comme lui. Nous sommes honorés comme Jésus est honoré dans le ciel. Il n'y a point de distinction. Alléluia. Oh mes amis, si nous comprenons cela, nous serons guéris pour toujours de ce sentiment-là. Je ne veux pas dire que nous n'aurons pas de problèmes encore, des difficultés, mais ces sentiments-là ne nous paralyseront plus comme avant. Ne nous empêcheront plus d'avancer comme avant, car nous aurons la révélation qui libère. C'est la révélation de la croix. Là, il a été rejeté pour que maintenant, en lui, je sois aimé du Père, honoré du Père, béni du Père, favorisé par le Père. Oh, alléluia! Voilà ce que vous devez croire et confesser. Et ne pas dire, oh, mais moi, je ne mérite rien, je ne suis rien. C'est vrai, tu n'es rien. Mais tu es tout en Christ maintenant. Amen. Tu ne seras jamais rien sans Christ. Mais tu es tout en Christ maintenant. Nous sommes acceptés en son bien-aimé. On n'est pas acceptés par nous-mêmes, ou à cause de notre religion, ou à cause de nos œuvres, ou à cause de nos dons spirituels, ou à cause de notre consécration. Beaucoup de chrétiens basent leur acceptation de Dieu sur ce qu'ils font pour Dieu. Et voilà pourquoi ils ne s'en sortent pas. Le jour d'une convention, ils sont au ciel. La semaine après, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils basent leur acceptation devant Dieu sur ce qu'ils font pour Dieu. Non, mes amis, ce n'est pas là un bon terrain, c'est un terrain mouvant, c'est bâtir sur le sable. Nous sommes acceptés de Dieu, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce qu'il a fait pour toi. Amen. Alléluia. Et cela est valable aussi bien le jour de la convention qu'en dehors de la convention. Le matin et le soir à la maison, au travail, partout. Tu es un bien-aimé du Seigneur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a voulu montrer à ses disciples qui étaient brisés par la douleur. Quelle miséricorde, quelle tendresse, quel tact, n'est-ce pas vrai? Quel tact. Nous, l'apôtre Pierre, par exemple, il y a longtemps qu'on l'aurait mis de côté, n'est-ce pas vrai? Il y a longtemps, on lui aurait dit, allez, toi, t'es terminé. Hein? Terminé, ton compte est fait. Voilà comment nous nous réglons les problèmes. Ou alors nous coupons les oreilles des autres. Je ne sais pas qui a coupé l'oreille, là, mais un disciple était là. Il avait une épée, vous vous rendez compte? Qui? Voilà comment il voulait aussi résoudre les problèmes lui-même. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû réparer ce que son disciple avait mal fait. Et il a remis l'oreille en place en lui disant, hey, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas leur couper les oreilles des autres. Ton oreille doit d'abord bien écouter ma voix. Ton oreille doit être attentive à ce que je fais pour toi et pour les autres. Ton oreille doit être attentive à mon amour pour eux. Je ne suis pas venu détruire celui-là. Je suis venu pour le sauver aussi. Alléluia! Ton oreille doit être attentive à cela. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous sommes acceptés, il y a un deuxième miracle qui se passe. Premièrement, nous sommes honorés, nous sommes acceptés. Et parce que nous sommes acceptés, il y a un deuxième miracle. Nous pouvons accepter les autres. Vous comprenez cela? Ça va ensemble aussi. Pourquoi est-ce que bien souvent nous rejetons les autres? Parce que nous n'avons pas saisi ou nous ne sommes pas conscients que nous sommes, nous, bien-aimés et honorés du Père. Et parce que nous n'avons pas ces sentiments-là, et parce qu'il y a ces combats en nous, alors on en va promener les autres. C'est parce que nous, on n'est pas en paix. C'est parce que nous, on n'est pas dans cette plénitude du repos que nous avons en Christ, que nous combattons, n'est-ce pas vrai? Mais lorsque nous savons qui nous sommes, alors nous pouvons aider les autres à devenir ce qu'ils doivent être. Alléluia! Vous êtes acceptés en son bien-aimé. Dites dans votre cœur, Seigneur Jésus, je suis accepté en Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La deuxième blessure. Cette deuxième blessure, c'est donc ce sentiment de crainte. Et la crainte est quelque chose qui nous paralyse aussi dans notre vie spirituelle. Je ne veux pas dire que nous n'aurons jamais de sentiment de crainte. D'ailleurs, il y a une certaine crainte positive aussi, n'est-ce pas? Il faut craindre certaines choses. Il faut craindre de ne pas faire d'accident. Et si tu ne crains pas de faire certains gestes qui peuvent te faire du mal, eh bien, on risque d'avoir des ennuis. Mais il y a l'autre crainte qui est négative et qui détruit. C'est cette crainte des disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui leur a fermé la porte ici? Vous avez remarqué, ils se sont emprisonnés. En somme, ils étaient dans une prison. C'était une chambre haute, mais ils étaient en prison. Beaucoup d'entre nous, on est à l'église, mais on est en prison. Et beaucoup sont dans les églises, mais ils sont libres. Ils sont dans une chambre haute. La liberté n'est pas un lieu où nous nous trouvons. La liberté est un état d'esprit. Amen. C'est un état d'esprit. Et ils étaient en prison. Et dites-moi, qui les avait mis en prison? Dites-moi un petit peu. Qui les avait mis en prison? Ah, nous, on aurait dit, Satan! On aurait prié, attends, Satan! C'est toi qui m'as mis en prison! Et la Bible ne dit pas que c'est Satan qui les a mis en prison. Est-ce que c'est Dieu qui les a mis en prison? Beaucoup diraient, ah, mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'est vrai, il y en a qui... Ils mettent beaucoup de choses sur le dos, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu. Alors, c'est Dieu! C'est le fatalisme, c'est Dieu. Mais la Bible dit que c'est pas Dieu. Eh bien, si on était à leur place, qu'est-ce qu'on dirait encore?
C'est les Juifs.
Puisque c'est à cause des Juifs. Mais qui les a enfermés? C'est pas les Juifs, ils sont pas venus leur fermer la porte. C'est pas eux, ils sont pas venus. Qui les a enfermés? C'était eux-mêmes. Voyez-vous, la crainte nous emprisonne. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans certaines prisons. C'est nous-mêmes, par notre attitude négative, par des réactions qui ne sont pas comme Dieu le voudrait, nous nous mettons en prison. Et si c'est vous qui vous êtes mis en prison, il n'y a que vous qui pouvez en sortir par un acte de foi personnel. Amen. Il est donc important de savoir comment s'en sortir. La crainte, qu'est-ce qu'elle fait? La crainte vous emprisonne. La crainte, elle fait aussi autre chose. La crainte vous pousse à cacher vos talents. Avez-vous remarqué dans Matthieu 25, vous connaissez l'histoire de la parabole des talents, là? Jésus en a donné 5 à l'un, ensuite 2 à l'autre et 1 au dernier. Les deux premiers ont fait fructifier leur talent, mais le dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher son talent en terre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand le maître est venu, j'ai eu peur. Et j'ai caché ton talent en terre. Voyez-vous? À cause de la peur. Et il disait, il a dit au maître, j'ai eu peur parce que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Je réfléchissais là-dessus. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Autrement dit, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, toi, tu réclames une moisson, mais tu ne donnes pas la semence. Voyez-vous, il accusait Dieu qu'en fait, il n'avait rien reçu. Pour lui, le talent qu'il avait reçu, c'était rien du tout. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Le problème dans les églises n'est pas un problème avec ceux qui ont 5 talents et avec ceux qui ont 2 talents. Non, le problème est avec ceux qui ont 1 talent. Un talent. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils le cachent. Et ils disent qu'ils n'ont rien du tout. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Autrement dit, tu me demandes quelque chose d'impossible. Je n'ai rien du tout. Voilà le problème. Quand nous commençons à dire que nous n'avons rien du tout, c'est là que ça ne va plus du tout. Et c'est la crainte qui nous fait, qui nous pousse ainsi à cacher nos talents. N'est-ce pas tragique, chers amis? Combien d'entre nous ici, combien ont des talents, mais à cause de la crainte du qu'en dira-t-on, la crainte des autres, la crainte de je ne sais qui, vous cachez votre talent. La crainte d'une mauvaise conception de Dieu, la crainte du diable, la crainte des hommes. À cause de cela, vous cachez votre talent et vous dites, j'ai rien reçu. Tu veux que je sème là où tu n'as pas semé, que je moissonne là où tu n'as pas semé. Chers amis, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la crainte. Voyez-vous, la crainte nous fait dire même des mensonges. La crainte nous fait dire des mensonges. C'est pourquoi nous avons besoin d'être libérés de cette crainte, n'est-ce pas vrai? Ces disciples ne pouvaient pas rester toute leur vie dans cette prison, dans cette chambre haute, vous êtes d'accord avec moi? Dans cette prison! Si Jésus n'était pas venu vers eux, il serait encore là-bas. En train de pleurnicher. Et dit, oh Seigneur, quand est-ce qu'on va sortir de là? Seigneur, libère-nous, s'il te plaît, libère-nous. Et ils seraient encore là-bas. Non, ils ont été libérés. Ils ont su comment sortir de cette prison de la crainte. La crainte fait aussi autre chose. La crainte déforme la réalité. Quand nous craignons, nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous voyons cela dans Matthieu 14, 26. Vous vous souvenez quand Jésus a marché sur les eaux? Qu'ont dit les disciples? Quand ils l'ont vu arriver, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dites-moi, fort. C'est un fantôme. Vous vous rendez compte? Et c'était un fantôme? Non. C'était qui? C'était Jésus. Et eux, ils étaient remplis de crainte. Et ils s'écrièrent, mais c'est un fantôme! Voyez-vous, la crainte déforme la réalité. Quand nous craignons, nous ne voyons plus les choses comme elles sont. Nous ne voyons plus les choses exactement comme Dieu les voit. Nous disons qu'il y a un fantôme, alors que c'est tout simplement le Seigneur. Nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, alors qu'il n'y a absolument rien du tout. Amen. Je lisais aussi une fois ce témoignage, cette histoire-là. C'est au sujet d'un homme qui était dans le désert. C'était un bédouin, je crois, du désert là-bas. Et un jour, alors qu'il était là, tout seul, il voit dans le lointain une masse sombre qui bouge un petit peu. Il se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est sûrement une bête sauvage. Ah, il faut que je fasse attention. Alors il était là.
Et là, le point noir s'est approché. Ah, tout à coup, il a risé. Ah non, mais c'est on dirait un homme. Non, c'est pas une bête, c'est un homme. Ah bon. Mais alors, au fur et à mesure que la personne s'avançait, oh là, mais, ouh, mais il ressemble à mon ennemi, j'ai un ennemi. Exactement lui, c'est mon ennemi qui arrive. Il était là, je demandais ce qu'il allait faire. Et au fur et à mesure que la personne approchait, elle dit, mais c'est pas mon ennemi. Mais on dirait mon ami, on dirait que c'est mon copain qui vient. Ah, ça la rassure un petit peu. Et au fur et à mesure que la personne avançait, quand il était tout près de lui, c'était son frère. C'était son frangin. Et ça a commencé par une bête sauvage. Ça suit par un ennemi. Et par toutes sortes de pensées. Et qui a fait cela? C'était la crainte dans son cœur. Voyez-vous, quand quelqu'un craint, il n'y a plus rien qui lui plaît. Il peut y avoir les plus belles manifestations de la puissance de Dieu. Ils ne voient rien du tout. C'est pourquoi les pharisiens, quand ils voyaient Dieu agir, ils disaient que c'est le diable. Ils ne savent plus rien du tout. Ils ne savent plus discerner. Quelqu'un qui est dans la crainte ne sait plus discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. N'est-ce pas vrai? Ah oui. Quelqu'un qui est dans la crainte, il voit tout du diable. Quand Dieu fait quelque chose, il voit le diable. Comme les premiers pharisiens, le diable. C'est par les princes des démons qu'ils chassent les démons. Voilà, c'est la crainte. Quelqu'un qui est dans la crainte, il déforme la réalité. C'était Jésus, et pourtant il disait que c'était un fantôme. Et vous savez ce que fait la crainte aussi? Les œuvres du diable, vous savez ce qu'on dit? Ces personnes-là, tout ce qui vient du diable, ils disent, ça c'est de Dieu. N'avez-vous pas remarqué certaines personnes, soi-disant religieuses, vous savez ce qu'elles vous disent? Vous savez, quand on prie pour les malades, on a l'habitude de prier pour les malades. Bien souvent, et voilà ce qui nous sort. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces gens-là, quand Jésus guérit, ils disent que c'est du diable. Ils disent que c'est du diable. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes vont chez des guérisseurs. Et vous savez ce qu'ils disent au sujet des guérisseurs et de ces charlatans? Ils disent, mais ils ont un don de Dieu, ces gens-là. Ah, ils ont un don de Dieu. C'est parce que, vous savez, j'ai été là-bas, j'ai été le voir, le monsieur, la madame. J'ai été les voir. Et puis, il m'a dit qu'il avait reçu ça de son grand-père, de sa grand-mère, et que c'était un don de Dieu. Et il croit cela, n'est-ce pas vrai? Mais quand Dieu agit, quand c'est le Saint-Esprit qui agit, on ne voit rien du tout, on dit que c'est le diable. Ça, c'est la crainte. La crainte nous fait faire de terribles choses, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi nous avons besoin d'être libérés de cette crainte. Amen. Alléluia! L'apôtre Paul disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de crainte que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné cet esprit de crainte. La crainte qui détruit, paralyse, ne vient pas de Dieu. La crainte nous vient du diable. C'est pourquoi nous devons résister à cela. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que fait la crainte. Et comment en être délivré? Comment en être délivré? J'ai noté plusieurs petites choses ici. Premièrement, vous devez croire d'abord que vous pouvez l'être. C'est tout simple. Vous devez d'abord croire que vous pouvez être délivré de la crainte. Combien d'entre nous nous disons, oh mais non, moi c'est pas possible. On a tant prié pour moi, on a tant fait pour moi. C'est de père en fils. C'est à l'arrière-grand-mère qui a cela. Vous pensez bien qu'il y a plusieurs générations. C'est pas possible. On ne croit pas que Jésus peut faire quelque chose. Si vous voulez la délivrance de la crainte, vous devez croire que cela est possible. Amen. Croyez-le. Croyez que Dieu veut vous délivrer. S'il y a une blessure profonde qui est là, qui vous paralyse, croyez que Dieu peut vous en délivrer. Je ne veux pas dire que vous n'aurez plus ces sentiments de crainte, mais je veux dire que cette crainte ne vous paralysera plus comme avant. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, vous devez savoir que Jésus comprend votre crainte. Il ne vous condamne pas pour cela. Quand il s'est approché des disciples qui étaient dans la barque, il leur a dit, mais pourquoi avez-vous eu peur? Rassurez-vous, c'est moi. Il n'aura pas dit, qu'est-ce que c'est que ça, vous? C'est honteux d'avoir eu de la crainte. Ça fait presque 3 ans que vous êtes avec moi, et vous êtes dans cet état-là. Alors, il faut que je choisisse 12 autres apôtres avec moi, parce que ça va pas être possible. Comment? Depuis le temps que vous me suivez, vous êtes encore dans cet état-là? Hein? Nous, c'est comme ça qu'on règle les problèmes, c'est pas vrai? Mais Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, comme pour dire, je vous comprends, C'est pas nécessaire de cacher ta crainte et dire « Oh, j'ose pas dire à Jésus que j'ai de la crainte parce que il m'aimera moins. » Ou « Il ne m'aimera plus. » Non, mes amis, Jésus comprend cela. Amen. Il comprend. Il comprend. On n'a rien à cacher au Seigneur. On n'a plus qu'à, on n'a qu'à lui dire, à tout lui dire. Amen. C'est ce qui est beau. C'est pourquoi dans cette convention, pendant toutes ces réunions, ouvrez-vous au Seigneur. Ne cachez rien. Ne cachez rien. Il vous aime encore. Amen. Il ne vous fait pas de reproches. Il veut tout simplement vous aider. Ne paraissez pas plus spirituel que ce que vous n'êtes en réalité. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons paraître ce que nous ne sommes pas. Ah, ce que j'aime avec l'apôtre Pierre, c'est qu'au moins lui, il avait le courage de montrer ce qu'il était. Vous savez, il a marché sur les eaux, hein. Et qu'est-ce qu'on retient, nous? Bien souvent, dans ce miracle-là, qu'est-ce qu'on retient? Quand il a coulé. Avez-vous remarqué? Bien souvent, quand on entend une méditation là-dessus, on ne parle pas souvent de Pierre qui a marché sur les eaux. Mais c'est extraordinaire, vous êtes d'accord avec moi? Il est quand même le seul apôtre qui a fait cela. C'est pas vrai? Il est le seul! Il a fait quelque chose d'extraordinaire quand même, bien sûr, avec la grâce de Dieu, naturellement. Mais je veux dire qu'il a quand même fait quelque chose, il a marché sur les eaux. Moi, je n'ai pas marché sur les eaux. Vous n'avez pas marché sur les eaux. Les autres apôtres non plus. Et qu'est-ce qu'on retient? Tu as fait un petit plongeon. C'est pas beau, Pierre. C'est pas bien ce que tu as fait. Un apôtre comme toi, tu as plongé, tu as bu une tasse. Ah, je sais pas ce que je vais faire avec toi, monsieur Pierre. Il faudra que tu aies un entretien avec moi. Non, mais Pierre a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a marché sur les eaux. Amen. Il a marché. Il a marché pendant quelques instants. Même si c'était pendant 2 secondes, il a marché pendant 2 secondes. Amen. Mais c'est tout. C'est quoi? C'est du béton? C'est quoi? C'est formidable. C'est extraordinaire. Amen. Et après, il a coulé, ça fait rien. Mais enfin, le Seigneur était là. Il n'a pas permis qu'il boive la tasse. Il a tout de suite été là. Voyez-vous, avec Pierre, il faisait des choses extraordinaires. Et puis, il faisait des choses moins extraordinaires. Mais il était lui-même. Et voilà pourquoi Dieu l'a utilisé. Nous, nous cachons notre visage, n'est-ce pas vrai? Devant les uns, nous voulons paraître spirituels. Mais quand nous sommes à la maison, nous-mêmes, loin du pasteur, loin de l'église, loin des chrétiens, alors nous avons tout à fait un autre visage, n'est-ce pas vrai? Nous avons un autre visage. Non, soyons nous-mêmes. Reconnaissons le problème que nous pouvons avoir. Et Dieu nous aidera, il ne nous condamnera pas, il est spécialiste pour redresser, pour relever, pour corriger, pour bénir, alléluia, pour détruire, pour condamner, il ne faut pas être spécialiste pour cela, il ne faut pas être rempli du Saint-Esprit pour cela, mais pour relever, redresser, encourager, fortifier, alors là je vous assure, il faut l'Esprit de Dieu. Et Dieu est là au milieu de nous. Et il nous dit, reçois le Saint-Esprit, reçois la vie. Et cette vie va te redresser. Cette vie va te permettre de marcher sur les eaux, de tes épreuves, de tes difficultés, de ta crainte, de ton sentiment de rejet. Lève-toi et marche. Alléluia. Marche, tu peux marcher. Si Pierre le terrible a marché, tu peux marcher aussi. Amen. Alléluia. C'est ça qui est encourageant aussi avec Pierre. Lui qui est un terrible, il a quand même marché sur les eaux. Nous, on dit tant qu'on ne sera pas un ange, on ne pourra pas le faire. Non, Pierre, c'était le plus terrible. Et c'est le plus terrible qui a fait la chose la plus extraordinaire. Oh, alléluia. Amen. C'est là la grâce de Dieu. Tout cela afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, il faut... Bon, Jésus comprend notre crainte. Et troisièmement, ne pas regarder aux circonstances, mais à Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a coulé? Parce qu'il a commencé à regarder à l'eau, aux circonstances, au vent, et à cause de cela, il a plongé. L'important ici, c'est de détacher nos regards de nous-mêmes et des circonstances, et de les fixer sur Jésus et Jésus seul. Tant que nous avons les regards sur Jésus, nous ne coulerons pas. Amen. Si nous coulons, c'est parce que nous détournons les regards du Maître. Fixons-les sur Jésus. N'écoute pas ce que l'ennemi te dit. Ne te laisse pas influencer par les circonstances. N'écoute pas ce que les autres disent. Écoute ce que Dieu dit. Ne te laisse pas influencer par ces circonstances, mais regarde à Jésus. recherche la présence de Jésus, et Jésus te tiendra, te soutiendra et te bénira. Amen. Il te sortira de cette eau et il te fera marcher. Alléluia, en vainqueur et pour vaincre. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Troisièmement, je terminerai par là maintenant. La troisième blessure qui était dans le cœur de ses disciples, c'était le ressentiment. C'est pourquoi Jésus leur a dit, ceux à qui vous pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Autrement dit, ils avaient d'abord besoin d'expérimenter eux-mêmes ce message du pardon. Parce qu'on ne peut pas apporter le pardon aux autres si nous, nous ne l'avons pas expérimenté dans sa plénitude. C'est pourquoi cette blessure du ressentiment, qui est de l'amertume, de la haine, qui détruit des foyers, qui détruit des vies spirituelles. Mon ami, vous ne pouvez pas garder ce poison. C'est un poison qui vous détruit. Le ressentiment est un poison. Même si vous avez raison, vous avez toujours tort de vouloir avoir raison. Amen. Je répète. Même si vous avez raison, vous avez toujours tort de vouloir avoir raison. Dieu ne sera jamais avec vous si, même si vous avez raison, vous voulez à tout prix avoir raison. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il avait raison. Et cependant, qu'est-ce qu'il a dit ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il avait raison, il était sans faute, il était sans péché. Il a dit, qui d'entre vous me convaincra de péché ? Personne ne pouvait le convaincre. Et cependant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Même si vous avez raison, vous devez pardonner. Une autre raison pour laquelle vous devez pardonner, c'est que si vous ne pardonnez pas, vous ne saurez pas pardonner vous-même. C'est tout simple, nous le savons. Dans la prière, qu'est-ce qui nous a appris le Seigneur dominical ? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, Dieu nous pardonne à condition que nous pardonnions aux autres. Il n'est pas question de dire, moi, je demande pardon à Dieu et je peux garder de la rancune dans mon cœur contre n'importe qui. Ça ne fait rien. Je demande toujours pardon à Dieu. Non, mon ami. C'est dans la mesure où vous pardonnez aux hommes que Dieu vous pardonne aussi. Ceci est important, voilà une raison. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Et si vous n'êtes pas pardonné, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous êtes bloqué, vous êtes paralysé. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans votre vie spirituelle. Vous êtes peut-être un chrétien, mais complètement paralysé, esclave. Et vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Une troisième raison maintenant, pourquoi il faut pardonner ? Parce que la vengeance appartient à Dieu et à Dieu seul. La parole de Dieu dit, ne vous vengez pas vous-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Si vous voulez connaître les conséquences de la vengeance, allez dans les prisons. Allez voir un peu ceux qui mettent en pratique cela. Cet esprit de vengeance, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se détruisent eux-mêmes. Celui qui veut se venger ne portera jamais des fruits. Il se détruira lui-même en détruisant les autres. Mes amis, la vengeance n'a jamais rien fait de bon. Au contraire, la vengeance vous détruira et ne porte jamais des fruits positifs. C'est pourquoi Jésus nous dit, maintenant, pardonne, pardonne, et tu pourras aller annoncer mon message. Amen. Pardonner, c'est la plus bonne chose que vous puissiez vous faire à vous-même aussi. Amen. C'est la plus merveilleuse des choses que vous pouvez vous faire à vous-même. Pardonner, c'est vous libérer vous-même aussi de tout esclavage, de toute rancune, de toute amertume. Pardonnez et vous resterez libre. Amen. Celui qui pardonne restera libre. Celui qui ne pardonne pas sera esclave. Que Dieu nous aide à mettre en pratique ces paroles, à être guéri dans le fond de notre cœur et à être guéri de ces blessures, du rejet, de la crainte et du ressentiment. Et Dieu vous dit, maintenant, allez, vous pouvez aller. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et avec l'onction de Dieu, avec la paix de Dieu, avec l'autorité de Dieu, avec la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi ? Parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu qu'il vous donne, la paix est possible, le pardon est possible. L'amour est possible parce que l'esprit qui est en vous, c'est un esprit de paix, d'amour, de pardon, de victoire. Amen. Et plus nous serons remplis de l'amour, de l'esprit de Dieu, nous serons remplis de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu et du pardon de Dieu. Gloire au Seigneur. Et si nous sommes remplis de ces choses, nous n'aurons qu'une envie, c'est d'aller le répandre autour de nous. Amen. Parce que c'est tellement merveilleux. Pourquoi est-ce que certains n'ont pas envie de dire aux autres qui est Jésus? Parce que ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes la valeur de la paix, du pardon de Dieu, de l'amour de Dieu. Ils ne peuvent pas donner aux autres qui n'ont pas expérimenté eux-mêmes. Mais quand on a goûté combien le Seigneur est bon, nous n'avons qu'un désir. Seigneur, est-ce que je peux y aller? Mais bien sûr, vas-y. Maintenant que tu as goûté ces choses, va et dire à tes frères et à ceux de ta maison tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Voilà la guérison. Voilà la guérison profonde que Dieu nous donne d'expérimenter cette guérison dans ces trois domaines. Dieu veut le faire. Il est là, le Christ ressuscité. Il ne vous rejette point, mais il veut vous aider et vous guérir. Croyez-le. Recevez sa parole. Recevons sa parole. Et louons-le de tout notre cœur. Amen. Courbons-nous dans la prière quelques instants maintenant. Seigneur, tu es merveilleux. Nous te louons pour ta grâce. Nous te louons pour ton amour. Nous te louons pour ton pardon. Seigneur, tu ne te lasses point de nous. Craintif, tu viens vers nous et tu nous dis, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Rejeté, tu viens nous dire, mais mon enfant, j'ai été rejeté à ta place. Viens maintenant, je t'ai accepté. Tu es aimé, tu as du prix à mes yeux. Plein de ressentiment, il nous dit, comme je t'ai pardonné, pardonne mon enfant et annonce le merveilleux message de la libération en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton esprit de guérison qui vient guérir nos blessures profondes maintenant, pendant tout ce week-end. Ton huile de guérison, il y a du baume en Galade, alléluia. Oh, nous recevons ton amour qui guérit, ton esprit qui libère, ta puissance qui délivre, que ton nom soit béni. Restons encore dans le recueillement quelques instants, alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Le Seigneur m'a mis quelques paroles
Alléluia.
Sur mon cœur pour vous.
Gloire.
Et il est là cet après-midi pour agir de deux façons. Il est à la fois ici, en tant que prince de paix, pour ceux qui sont troublés, fatigués. Et il est à la fois là comme libérateur. Mmh. Pour ceux qui sont liés, pour ceux qui se sentent oppressés, pour ceux qui se sentent bridés. Et c'est merveilleux parce que, sans se consulter, le Seigneur m'avait donné ce même passage. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. »
Amen.
Et c'est ce qu'il nous dit cet après-midi.
Merci.
Il est là. C'est comme s'il était là, et il est là, et nous dit, la paix soit avec vous. Et il m'a montré qu'il y a ici deux catégories de personnes. Mais spécialement une catégorie de personnes qui est fatiguée nerveusement. Beaucoup de gens ici sont fatigués nerveusement. On les nerve fatigués. Les uns à cause des tensions de la vie, du stress dans lequel ils vivent, du travail intensif qu'ils sont obligés d'accomplir dans cette société. D'autres sont fatigués nerveusement parce qu'ils ont des soucis matériels.
Gloire à toi.
Et ils ne s'en sortent pas. Il n'y a pas de solution pour eux. Là aussi, le Seigneur est là pour leur dire, paix vous soit. Recevez ma paix.
Merci Seigneur.
Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie. Je chanterai, je crierai, alléluia. Mon Dieu n'est pas
chanter.